Chapitre 27. La nuit au château. Le même corridor enfermé sous ses triples clés, Louvigny, Darcourt et Villeroy, tous trois logés dans une suite de chambres successives, tous trois ignorant, les damnés enfants de Mars, quels étaient leurs voisins de chambre au noble château de Crépon. L'orange et son tintamarre n'avaient en rien assombri les joyeux fronts des trois amis. Ils avaient demandé du feu à bon jus et ils devisaient tous trois dans la chambre de l'un d'eux quand ils crurent entendre le bruit de lourdes bottes retentir sur l'escalier. L'assemblée se tenait chez Louvigny dans une grande pièce à laquelle attenaient deux autres plus petites, dévolues à Darcourt et à Villeroy. On causait de la campagne de M. de Turenne quand Bonjus et Luxeuil passèrent de ce côté. « Peste !» dit Louvigny, « voilà des gens qui se couchent bien tard. Auraient-ils joué à l'ombre ou à la bassette en vrai sournois ? Je serais désireux de voir leur figure, » ajouta-t-il en tenant la porte entrebâillée. Louvigny s'approcha le plus discrètement qu'il put et n'eut pas de peine à reconnaître Luxeuil qui suivait Bonjus dans les profondeurs du corridor. « Hola, hé, chevalier !» lui cria-t-il à voix basse. « Viens donc ici te chauffer un peu à notre chambrée, mon cher !» Luxeuil détourna la tête tout aussitôt, bien que Bonjus s'évertuât à lui montrer l'appartement que la comtesse des Barres lui avait dessiné. Le chevalier se contenta de lever le nez et d'en lire le numéro, puis il courut les bras tendus vers Louvigny. « Que la peste me crève si je songeais à vous, mes féaux !» dit-il en posant le pied dans la chambrée. « J'étais occupé du rêve le plus charmant. »« Tu rêves debout, chevalier, voilà qui est neuf !» reprit Villeroy. « Et à quel objet ?»« Ma foi, mon très cher, à une fille admirable que j'ai entendu nommer, je crois, du doux nom de Mathilde par la comtesse. » « La comtesse, tu l'as donc vue, elle n'est point couchée ?» demanda Darcourt. « Elle m'a reçue à merveille, » reprit Luxeuil. « Cependant, l'avouerai-je, je n'avais des yeux que pour sa voisine de chambre, la délicieuse Mathilde. » Le chevalier achevait à peine ses paroles qu'un coup léger retentit à la cloison de la chambre où il causait. « Que veut dire ceci? Un voisin que nous gênons ? Parlons bas. » « Je vous disais donc, » ajouta Luxeuil en baissant le ton mystérieusement, « que cette Mathilde ?» Ici, il y eut un nouveau bruit à la cloison et le chevalier se leva. « Qui m'impose silence ? » demanda-t-il d'une voix claire. Nulle voix ne répondit à la sienne, mais il y eut dans la pièce voisine un bruit de chaise assez significatif. « Je me nomme le chevalier de Luxeuil !» cria le chevalier en s'approchant de la cloison. « Moi, Villeroy. Moi, Darcourt. Moi, Louvigny. » Un silence profond succéda à cette déclaration de guerre et le chevalier put reprendre. « Je ne serais pas fâché, mes bons amis, que vous puissiez m'apprendre quelque chose sur ce château. Si je viens d'y voir une jolie fille, peut-être aussi y trouve-t-on des esprits. Nous irons tout à l'heure, en cas de nouvelle attaque, réduire ce fantôme à la raison. » « Mais avant cela, je ne serais pas fâché de me débarrasser à votre endroit de certaines lettres que j'ai là en portefeuille. Villeroy, mon cher, en voici une de M. de Louvois. Darcourt, celle-ci est de M. de Turenne. Louvigny, tu es le mieux partagé. Oh, celle-là est du roi !»« Voyons, voyons vite !» s'écrièrent les trois amis. Mais à peine eurent-ils lu qu'une contrariété subite changea l'expression de leur visage. « Bon, s'écrièrent-ils, nous voilà forcés de conquérir une seconde fois la Franche-Comté. »« Je dois dès demain rejoindre l'armée, » dit Darcourt. « Nous aussi, » reprirent Louvigny et Villeroy. « Va-t'en au diable, Luxeuil, tu n'es qu'un messager de malheur. »« De gloire, voulez-vous dire ?»« Lorsque nous allions prendre à Crépon nos quartiers d'hiver, quand nous comptions faire la cour à ces dames, nous devrions t'étrangler. » « Mes amis, mes bons amis, » reprit le chevalier de Luxeuil avec un grand flegme, « vous êtes bien heureux que le roi ait besoin de vos services. Moi, je le crains bien, je vais m'ennuyer ici comme un mort. Je n'ai pas les goûts champêtres. Peut-être ne ferai-je pas dans ce château un long séjour, surtout puisque vous partez. Mais je voudrais au moins savoir de vous quelles sont les personnes qui composent la société de la comtesse. En homme, qui a-t-il d'abord ?» « Oh, deux imbéciles, l'oncle et le neveu, l'un baïf d'épée, l'autre commis aux eaux et forêts. Passons. Pour les femmes, nous avons une présidente à moitié folle et la jeune fille que tu as vue. Fort bien. Cette jeune fille a pour père monsieur le baïf d'épée. Bon. Pour prétendu, il y a aussi un mariage sous jeu. Se présentent à la fois monsieur Palamède, neveu du baïf, et un certain monsieur de Chaville. Chaville, je ne connais pas. C'est ce qui te met parbleu à l'aise avec lui quand il reviendra demain. Une noblesse de robe, un amoureux du Berry avec lequel je voulais me mesurer, dit Louvigny. Il a bien fait de partir. Ainsi, dit Luxeuil en prenant quelques notes sur son calepin. Voilà tout. Tout, mon cher ami, et si tu ne trouves pas que c'est là un amas suffisant d'originaux, si fait, et je brûle déjà de voir le Palamède ou le Chaville. Monsieur de Chaville, reprit Louvigny, n'a rien d'extraordinaire, si ce n'est qu'après tout, c'est un cavalier passable. Mais quant à ce Palamède, figure de mouton bêlant, cousu de rimes, d'hémistiches. Un trépignement aigu retentit en ce moment près du mur et força Louvigny à s'arrêter. Le bruit d'un flageolet, sur lequel le joueur inconnu prenait sans doute à tâche d'exécuter les sons les plus discordants, échauffa à un tel point les oreilles des trois amis qu'ils résolurent d'imposer silence à l'importun. Mais, au même instant, le flageolet attaqua en sons alertes, ironiques, une marche de régiment bien connue et qui commençait sur l'air de fifre et tambour. Une pareille mélodie avait l'air d'une épigramme. Nos trois amis frappèrent à la cloison de toute la force de leurs poings. Bonjus survint au bruit, se plaignant de la sérénade nocturne qui troublait le repos des hôtes de Crépon et dont, heureusement, la comtesse des Barres ne pouvait rien entendre puisqu'elle habitait l'aile opposée du château. Cette musique ne pouvait provenir, selon l'intendant, que de la tour du Nord.